Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'abolition de l'esclavage a l'une des sources du droit d'ingérence pour raisons humanitaires. Alors, il y a deux choses dans ce titre. D'abord, un point d'interrogation, c'est une question. Et puis ensuite, il y a à l'une des sources. Ce sont deux choses que je voudrais tout d'abord aborder en introduction. L'une des sources, pour éviter un travers, qui est celui qui est souvent le nôtre, nous historiens, c'est-à-dire que lorsque l'on étudie un sujet, on l'étudie à un moment particulier, à une période particulière, et on a toujours l'impression, on est tenté de penser, que le sujet qu'on étudie a été inventé à l'époque que l'on étudie. Et donc, l'un des objectifs ce soir, ce sera d'éviter ce travers. Le droit d'ingérence pour raisons humanitaires, il y a un débat entre historiens. Certains défendent vraiment l'idée que ce droit serait né seulement dans les années 1960-70, voire un peu après. Certains le font remonter à la guerre du Biafra, 1976-70. D'autres disent non, on peut trouver des antécédents. Alors, on peut trouver des antécédents. Pas forcément du droit d'ingérence pour raisons humanitaires, mais de principes qui participent de ce droit. On peut remonter très loin. La trêve de Dieu au Moyen-Âge, c'est bien l'ingérence d'un pouvoir d'Église qui interdit à des pouvoirs laïcs de se battre pour des raisons en partie humanitaires et en partie politiques. C'est un moyen pour l'Église d'affirmer son pouvoir. On passe les siècles allègrement, on arrive au XIXe siècle, la Croix-Rouge, c'est bien en temps de guerre une institution supranationale qui vient enquêter pour voir comment les prisonniers sont traités. Donc on pourrait retrouver comme ça des antécédents nombreux. Mais finalement, est-ce que c'est bien utile? Plutôt que de rechercher l'origine ultime, première, de ce droit d'ingérence pour raison humanitaire, peut-être est-ce qu'il est plus intéressant de se demander à quel moment, au pluriel, il a pu se cristalliser. Parce que finalement, comme beaucoup d'autres choses, les éléments, ou certains des éléments de ce droit d'ingérence pour raison humanitaire sont peut-être anciens. Mais à un moment donné, ils se combinent, se cristallisent. Et il me semble que l'un de ces moments, il peut en avoir d'autres, c'est bien l'une des sources, l'un de ces moments, c'est peut-être le moment 1780. C'est l'époque où se met en place un mouvement abolitionniste international dans le monde occidental. Et puis, si ce mouvement commence à apparaître à la fin du XVIIIe siècle, il a partie gagnée, disons, largement à la fin du XIXe. Or, lorsque ce mouvement abolitionniste gagne plus ou moins la partie, l'Afrique noire est colonisée. Et on peut se demander si finalement la colonisation succédant à ce mouvement abolitionniste, on peut se demander si le mouvement abolitionniste n'a pas été l'un des facteurs de la colonisation. Alors en fait, il est difficile de répondre à la question parce qu'elle a été mal étudiée. Alors mal étudiée non pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de travaux, une sorte d'Himalaya des travaux sur l'histoire de l'abolitionnisme international, mais c'est une histoire qui n'est pas souvent connectée à d'autres histoires. L'histoire de l'abolitionnisme n'est pas forcément connectée à l'histoire des relations internationales, à l'histoire d'autres choses. Et puis, parfois, ce sont les travers de ce que je pourrais intituler la petite phrase. Je prendrai l'exemple dans un ouvrage. Un auteur nous dit que les abolitionnistes ont été les fourriers du colonialisme, la preuve. Et le seul exemple mentionné, c'est une phrase de Victor Hugo. Victor Hugo qui a dit « Nous sommes les Grecs du XIXe siècle, c'est à nous d'illuminer le monde. » Alors, illuminer, coloniser, c'est pas forcément la même chose. Hugo était-il un abolitionniste? Des gens ont travaillé sur la question, c'est loin d'être sûr. Et puis, cette phrase est à un moment donné, alors que le mouvement abolitionniste, on l'a vu, là c'est un siècle, c'est plusieurs générations d'hommes, c'est plusieurs pays, c'est une partie du monde occidental. Et comment résumer finalement le projet de plusieurs générations de personnes à la phrase de quelqu'un qui peut-être aurait pu être abolitionniste? Donc voilà, ce sont les dangers des petites phrases extraites de leur contexte. Et ce qui fait que pour essayer d'aborder cette question et de répondre à la question, il faudra en fait un retour aux sources, et étudier non pas simplement telle petite chose ici ou là, mais des corpus entiers. Les débats parlementaires dans tel ou tel pays sur l'abolition de l'esclavage, ça a été fait notamment par une thèse, une très belle thèse soutenue à Lausanne il y a un an et demi, deux ans. Autre corpus, on en verra des illustrations, les récits de voyageurs européens en Afrique. Il y a eu un beau travail de master il y a quelques années. Bref, c'est par un travail sur des corpus qu'on peut dépasser un peu la petite phrase, et des corpus qu'il faudrait pouvoir comparer sur le temps long, et comparer parce qu'encore une fois, c'est un mouvement international. Tout cela pour dire que je ne pourrais donner ici que des éclairages, parce qu'il y a un travail important à effectuer. Que des éclairages. Et je le ferai en trois temps, on ne se refait pas. Donc, premier temps, première question, les fondements de l'abolitionnisme. Pourquoi l'abolitionnisme est devenu un mouvement international? Seconde partie, c'est comment il s'est... quelles ont été les modalités de son action sur le plan international. Et dernière partie, peut-on apporter quelques éclairages sur la question abolitionnisme, colonisation. Alors, ce faisant, j'essaierai de relier finalement la question de l'abolition à ce que l'on appelle l'économie morale, un thème qui m'intéresse de plus en plus. J'ai publié d'ailleurs en septembre dernier un ouvrage intitulé « Et le marché devint roi », les arguments pour ou contre le marché d'Aristote à nos jours. Il me semble que finalement, la question de ce soir fait partie de cette économie morale, c'est-à-dire des rapports entre l'économie, la traite des Noirs est un commerce infâme, c'est un commerce, l'économie, la politique, ce sont des États qui mettent en place des lois abolitionnistes, et la morale. Ces lois sont mises en place en fonction de critères éthiques. Et le thème de ce soir permet de relier ces différentes thématiques, politiques, économiques, éthiques. C'est donc un sujet d'économie morale. Alors, ceci étant dit, donc, première partie, l'abolitionnisme ou le monde comme champ d'action. Et tout d'abord, premier point, l'abolitionnisme, c'est une révolution dans l'histoire du monde. Une révolution parce que on pense trop souvent que l'esclavage, finalement, a longtemps été de soi. Ce qui n'est pas vrai. L'esclavage n'est jamais... n'a jamais été quelque chose allant de soi. Pourquoi? Depuis qu'on a les premiers textes d'Aristote, des textes qui justifient l'esclavage, qui tentent de légitimer l'esclavage, est-ce qu'on a besoin de légitimer quelque chose qui vous semble naturel? Non. Ça veut dire que dès la plus haute antiquité, l'esclavage est perçu comme quelque chose qui pose problème. Mais je dirais que pendant des millénaires, quantité de choses ont été débattues, on s'est intéressé au sort des esclaves, peut-on améliorer le sort des esclaves, peut-on en affranchir quelques-uns, etc. Mais jamais l'institution esclavagiste en tant que telle n'a été menacée. Et donc, je dirais que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à l'émergence du mouvement abolitionniste international qui nous intéresse ce soir, il y a eu des stratégies d'accommodement. L'esclavage, personne pratiquement, même les esclavagistes, pensaient vraiment que c'était tout à fait normal, mais on essayait de trouver des raisons de légitimer, on essayait de s'accommoder d'une chose qui rendait mal à l'aise. Fin XVIIIe siècle, on ne veut plus s'en accommoder. Et le projet n'est pas d'adoucir le sort de quelques esclaves ou d'en affranchir quelques-uns. Le projet des premiers abolitionnistes, c'est de mettre un terme d'abord à la traite, commerce des esclaves, et ensuite à l'esclavage comme institution. Et ça, ce projet, il est révolutionnaire dans l'histoire, dans la longue histoire du monde. Alors, ce projet radical, en plus, il apparaît un moment qui n'est pas du tout favorable. Deuxième moitié, fin du XVIIIe siècle, c'est quand même l'époque de l'apogée, de la traite par l'Atlantique, et l'époque de l'apogée du système colonial. On a des statistiques très précises maintenant. Plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus le nombre d'Africains déportés vers les Amériques augmente. Plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus la production des denrées coloniales augmente et se diversifie. Sucre, café, cacao, etc. plus on avance dans le XVIIIe siècle, et plus on s'aperçoit que les préjugés racistes à l'encontre des populations de couleur noire, qui sont évidemment très développées dans les colonies, ces préjugés-là commencent à s'insinuer en métropole parmi certaines élites. Et donc, vouloir mettre un terme à l'esclavage comme institution au moment où ce système est à son apogée, c'est loin d'être facile. D'autant plus que on souhaite le mettre, y mettre un terme de manière globale. Et donc, ça passe forcément par des principes qu'on pourrait appeler de supranationalité. Or, tout le monde le sait, le XIXe siècle, c'est l'apogée de l'État-nation, d'États qui sont qui défendent vigoureusement leur souveraineté. Et donc, ce projet radical nouveau dans l'histoire du monde, il se concrétise à un moment où c'est loin d'être facile. D'où la question suivante, sur quoi se fonde ce mouvement? Alors, il se fonde, comme c'est indiqué à l'écran, sur des valeurs présentées comme étant universelles. Pas seulement sur cela. Hein. Il y a de grands débats sur les origines de l'esclavage. Je dirais les sources de l'esclavage. Et pas forcément les causes. Je m'oriente de plus en plus vers une histoire compréhensive à la Max Weber, qui cherche non pas à donner la cause de tel ou tel événement, souvent très difficile et illusoire, mais essayer de comprendre comment les gens du passé percevaient les événements. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est pas de mettre en avant la cause potentielle de l'abolition de l'esclavage, c'est de se demander, les abolitionnistes, quand ils s'activaient, qu'est-ce qui les motivait? C'est cela une histoire compréhensive à la Max Weber. Alors, qu'est-ce qui pouvait les motiver? Il y a quantité de raisons possibles. On oppose souvent le juste et l'utile. Le juste, c'est-à-dire qu'on aurait aboli l'esclavage pour des raisons religieuses, morales, éthiques, le combat des philosophes et des hommes d'église. Et historiquement, c'est la première explication qui a été avancée. L'utile, ça a été au contraire le fait de mettre l'accent sur des raisons matérielles, hein, moins glorieuses. Hein. C'est que l'esclavage aurait été moins profitable à la fin du XVIIIe siècle pour l'Angleterre. C'est que l'Angleterre, en luttant contre l'esclavage partout dans le monde, en envoyant des navires de guerre pour lutter contre la traite illégale, en fait, s'érigeait en gendarme des mers. Et donc, le combat pour l'abolition servait son combat pour la suprématie mondiale. Hein. Donc, voilà des raisons matérielles. Et puis, troisième élément dans cette abolition, évidemment, le rôle des esclaves eux-mêmes qui sont libérés tout seuls à Saint-Domingue. Hein. Donc, le juste, l'utile, les esclaves, l'un ou l'autre, tout cela à la fois, sans doute. Mais qu'est-ce qui motivait les abolitionnistes? Il me semble que c'est deux choses, notamment. Une éthique de la conviction, pour reprendre à nouveau une terminologie chère à Max Weber, une éthique de la conviction. Et je prendrai juste deux exemples pour montrer comment il y a une évolution extraordinaire en un siècle. 1698, Germain Fromageau, directeur des Quatre Consciences à la Sorbonne. On lui pose une question. Peut-on faire la traite en étant chrétien? Fromageau répond. Mais comment répond-il? Au bout de plusieurs pages, en disant, voilà, dans l'Ancien Testament, on trouve ça, dans le Nouveau Testament, on trouve ça, les pères de l'Église ont dit que, etc., etc. À la fin, il arrive à dire que non, on ne peut pas faire ce commerce en conscience. Et deux lignes plus loin, mais si c'est pour les christianiser et sauver leur âme, alors on peut le faire. On est tout à fait dans la casuistique. Dans tel cas, c'est possible, dans tel cas, ça ne l'est pas, etc. On est dans cette situation d'accommodement qui a duré des siècles. 1698. Un siècle après, 1688, James Dore, un pasteur dans une église de Londres, qui s'adresse à ses fidèles et qui leur dit, vous, en tant que chrétien, en tant qu'homme, en tant que Britannique qui défendait les libertés. Vous ne pouvez pas accepter la perpétuation de la traite. L'écart entre Fromageau et Dore est extraordinaire. Fromageau, il ne donne pas son avis. Son avis, il l'étaye à partir de ce qu'ont dit les autres. James Dore fait appel à la conviction personnelle des gens qui sont en face de lui. L'abolitionnisme, c'est ça. C'est une éthique de la conviction personnelle, de la conversion de soi. Une éthique de la conviction, de la conversion, portée par des valeurs universelles. Ici, c'est l'un des documents les plus emblématiques de la propagande abolitionniste. Ne suis-je pas un homme et un frère ? On a d'autres documents où, finalement, c'est une femme. Ne suis-je pas une femme et une sœur ? On veut montrer qu'ici, l'esclave noir est un homme comme les autres. Et comme tous les hommes, il a droit, il a les mêmes droits et le droit de liberté. Et donc, on a aussi d'autres documents que vous connaissez. Les abolitionnistes insistent aussi sur les conditions atroces de la traversée par l'Atlantique. Là, c'est le document le plus célèbre, la gravure du Brooks, un navire de Liverpool, 1788. Alors, on a dit pendant longtemps, les abolitionnistes, ce sont des documents de propagande. C'est vrai, c'est pour convaincre. Et on insiste sur les choses les plus terribles. Mais ce taux d'entassement n'apparaît pas que sur des documents abolitionnistes. Ici, on a un dessin, une peinture qui a été effectuée non pas par un abolitionniste, mais par un capitaine négrier nantais de la même époque. Il nous montre la même chose. Donc voilà, les esclaves sont des hommes comme les autres, ils ont droit au même droit, et on ne peut tolérer ces souffrances inhumaines. Et donc, si on considère que c'est porté par des valeurs universelles que les abolitionnistes s'activent, forcément, si ces valeurs sont universelles, elles doivent être appliquées partout. Elles doivent être appliquées partout. Alors, partout, c'est d'abord ce qu'on appelle, comme on le dit à la fin du XVIIIe siècle, au-delà de la ligne. Partout, c'est d'abord dans les colonies qui dépendent des puissances européennes. Ce qui met fin à une sorte d'exceptionnalisme. Pendant très très longtemps, il y a eu ce qu'on appelle un exceptionnalisme. C'est-à-dire que l'esclavage avait disparu d'Europe occidentale. Très largement de l'Europe nord-occidentale, déjà à la fin du Moyen-Âge. Et le principe était qu'en Europe, on ne pouvait être que libre. Et l'idée de liberté s'était vraiment enracinée. Mais on tolérait une exception pour les colonies. Fin XVIIIe siècle, l'abolitionnisme met fin à cet exceptionnalisme-là. Les mêmes règles doivent s'appliquer en métropole et dans les colonies. Donc l'esclavage doit disparaître. Et forcément, les Anglais militent pour l'abolition de l'esclavage dans leurs colonies, les Français pour l'abolition de l'esclavage et la traite dans leurs colonies. Alors, ceci dit, s'appliquer partout, avec des nuances quand même. Les Britanniques, en la matière, sont assez font cavalier seul. 1807, ils décident d'abolir la traite à leurs propres ressortissants. À partir de là, ils ne se contentent pas de cela. Ils veulent la faire abolir à toutes les puissances occidentales. Ils se lancent à la tête d'une croisade abolitionniste à l'échelle mondiale. Les Français entrent plus timidement, plus tardivement dans l'affaire, et eux militent pour abolir l'esclavage à la traite dans leurs colonies. Ils ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe ailleurs. Aux États-Unis, on souhaite abolir l'esclavage sur le sol américain. Les Américains ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe ailleurs. Et puis il y a des régions du monde qui n'intéressent pas vraiment les abolitionnistes, comme la Russie, sans doute parce que ce n'est pas de l'esclavage, c'est du servage. Mais néanmoins, ça retourne les consciences européennes de l'époque. Bref, c'est un projet universel qui tend à être appliqué partout, avec des nuances. Appliqué par qui ? Par des acteurs de plus en plus globaux. Tout d'abord, les abolitionnistes sont des individus. sont héritiers de ce qu'on pourrait appeler la République des lettres. L'abolitionnisme, au départ, c'est un cosmopolitisme, avec le rôle de personnes que l'on a oubliées aujourd'hui, notamment des Suisses, entre guillemets, parce qu'à l'époque, la Suisse moderne n'existe pas, hein. Mais comme Clavière, qui quitte Genève après la Révolution de Genève en 1781, qui va ensuite en Angleterre, qui revient en France, qui devient ministre sous la Révolution, et qui milite en faveur de l'abolition de la traite française. Entre 1802 et 1815, à l'époque napoléonienne, lorsque Napoléon revient en arrière sur la première abolition de l'esclavage, c'est en Suisse, à Coppet, autour de Madame de Staël, que certains abolitionnistes se retrouvent et discutent. C'est à travers ce qu'on appelle la Bibliothèque britannique, c'est-à-dire la publication et la transmission en Suisse d'ouvrages abolitionnistes anglais, que les idées abolitionnistes se diffusent aussi en Europe. Donc le relais suisse, entre guillemets, a été important. Autre exemple, on pourrait les multiplier, autre exemple pour montrer cette internationale abolitionniste, c'est le cas de Anthony Benezet, né en 1712, mort en 84. C'est un Français. C'est un Français, un calviniste français, qui va en Angleterre, devient un quaker, ensuite va en Amérique, créé à Philadelphie en 1756 la première société abolitionniste, et revient ensuite en Angleterre, où il développe les idées abolitionnistes. On a un exemple parfait, hein, de quelqu'un qui passe d'un pays à un autre et qui transmet ses idées. Dans un premier temps, c'est cela, l'abolitionnisme, et ces gens se réunissent dans des clubs. Le club de Londres, 1787, le club de Paris, la Société des Amis des Noirs, de 1788. Dans un second temps, la question se devient plus globale et on arrive à l'échelle nationale. Dès 1784, Necker, dans un ouvrage, indique que la France ne peut pas toute seule abolir l'esclavage et la traite si les autres continuent de la maintenir. Les Anglais pensent la même chose, parce que les abolitionnistes pensent que la traite et l'esclavage a enrichi quand même un peu les métropoles et que si les uns l'abolissent et pas les autres, il va y avoir un décalage économique. Et donc l'idée, c'est qu'il faut une coopération internationale pour que tout le monde, ou presque, l'abolisse en même temps. Et cette idée-là, elle est tout à fait pertinente, hein, à la fin du XVIIIe siècle. Il y a un mouvement d'anglophilie en France, hein, il y a un rapprochement franco-britannique, le traité dit de libre-échange en 86, et à ce moment-là, la coopération franco-britannique semble possible. Tout tombe à l'eau avec les guerres de la Révolution de l'Empire. L'Angleterre devient l'ennemi, hein, redevient l'ennemi héréditaire. Mais en tout cas, dès le départ, il y a l'idée qu'une coopération entre les États est nécessaire. Ensuite, il y a la traite illégale, qui joue un rôle aussi important. La traite illégale, c'est-à-dire que là, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a deux abolitions différentes. L'abolition de la traite, d'abord, puis celle de l'esclavage. Chaque pays abolit d'abord la traite, puis, des années après, l'esclavage. Donc il y a un moment où il est interdit de faire le commerce des êtres vivants, mais où il est légal d'avoir des esclaves. Le hiatus fait qu'il y a une traite illégale interdite. Autant plus qu'il y a toujours des vendeurs d'esclaves en Afrique et des acheteurs d'esclaves aux Amériques. Parce que si certaines colonies esclavagistes n'existent plus, hein, Saint-Domingue, d'autres ont pris le relais. Cuba devient au XIXe siècle un grand centre de gravité du monde de la plantation esclavagiste, comme le Brésil. Bref, il y a une nouvelle géographie de l'esclavagisme américain et il y a une forte demande. Et comme la traite est illégale, elle est donc dangereuse, mais les profits potentiels pour le trafic illégaux sont d'autant plus élevé. Et donc, il y a des candidats, hein, qui investissent dans cet infâme trafic. Et donc, la persistance d'une traite illégale aussi incite les États à collaborer. Parce que les Anglais se disent, bah oui, nous, on abolit la traite de nos ressortissants. En France, vous l'avez abolie. Mais il y a des Français qui prennent un pavillon danois et qui, subrepticement, continuent. Il faudrait quand même les contrôler. Donc, ça pose la question d'une coopération internationale. Et puis il y a aussi la compétition coloniale à la fin du XIXe siècle, hein, qui pousse chacun à être plus avant que les autres. Hein. dans l'acte final de la conférence de Berlin en 1885, on a dit qu'il faut concourir à la suppression de l'esclavage et de la traite des Noirs. Idem dans le chapitre 3 de l'acte final de la conférence de Bruxelles en 1890. Donc d'abord des individus dans des clubs, puis des États qui commencent à coopérer. Et puis, si on va encore plus loin, là, c'est plus tout à fait pour l'esclavage, quoique, dans l'entre-deux-guerres, cette question du travail dit forcé. À l'époque où l'Afrique est tombée sous la domination coloniale occidentale, il y a développement d'un travail forcé, entre guillemets, qui parfois est un véritable esclavage. Et à ce moment-là, la SDN, diligente des enquêtes, en Afrique. Et là, il y aurait des sujets d'études très intéressants. Et donc là, on dépasse le cadre des États, on arrive à des organisations supranationales. Vous voyez comment il y a une dilatation progressive, en un siècle, des acteurs de l'abolition qui deviennent de plus en plus globaux. Alors, ces acteurs, comment agissent-ils? Quelles sont les modalités du combat abolitionniste? Tout d'abord, il faut se méfier des rapprochement rapide. On a vu dans la première partie qu'il y avait un mouvement international. Internationalisme ne veut pas dire forcément coopération. L'internationalisme, ça peut vouloir dire d'abord que les Français et les Anglais, chacun en ordre dispersé, essaient d'abolir la traite, l'esclavage chez eux. Et en fait, c'est ce qui se fait d'abord. Parce qu'il y a quand même des réticences très importantes. Alors on va voir comment il y a à la fois des progrès et puis comment finalement le mouvement abolitionniste n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments où le combat abolitionniste aurait pu complètement chavirer. Ça aussi c'est le rôle de l'historien. Quand on voit après les choses, on se dit voilà, il s'est passé cela, c'était logique, inéluctable, et on cherche les causes qui ont permis de passer de ce point A avant au point B, au point d'arrivée. Mais on oublie que le passage du point A au point B n'était pas obligatoire, que les acteurs du passé avaient des choix. Et l'histoire de l'abolition le montre. Il y a eu des moments où ce projet aurait pu chavirer. Alors, deux cas de figure. Tout d'abord, la répression de la traite illégale. Voilà une photographie, fin 19e siècle. Ce sont des esclaves qui ont été libérés par navire britannique et qui sont photographiés, libérés dans l'océan Indien. Il y a une traite très importante dans l'océan Indien à la fin du 19e siècle. Et on voit notamment beaucoup d'enfants. Donc là, c'est un document qui là pour montrer l'importance de la traite illégale et qui là pour montrer l'aspect inhumain avec la présence de ces enfants. Alors, la répression de la traite illégale, elle est inscrite à l'agenda international dès le congrès de Vienne. Les puissances présentes au congrès de Vienne font une déclaration officielle disant qu'elles sont d'accord pour mettre un terme à la traite des Noirs, qui est décrite comme un phénomène contraire à toutes les lois humaines et chrétiennes, etc. Alors après, certains ont dit, voilà, c'est un texte généreux, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de modalité, de moyens, et donc ce sont des vœux pieux. Oui, tout à fait. C'est un compromis. Mais en matière de droit international, chaque étape est importante. Ensuite, on se prévaut de ce texte de 1815. Pour dire, voilà, on l'avait signé, on n'a pas fait grand-chose, il faut aller au-delà. Et ce sont les Britanniques qui se prévalent de ce texte et qui veulent, en 1816, dans une conférence qui se tient à Londres, pousser les mêmes puissances à agir concrètement pour mettre fin à la traite. La conférence de Londres est un échec. Les Anglais, sans doute, ont voulu aller trop vite. La conférence de Londres est un échec. Mais les Anglais ne perdent pas le cap de vue. Puisqu'on ne peut pas mettre d'accord tout le monde d'un seul coup, ils mettent en place une stratégie de contournement. on va se mettre d'accord de manière bilatérale. L'Angleterre et l'Espagne, l'Angleterre et la France, l'Angleterre et etc. Et donc se mettent en place des accords bilatéraux qui prévoient toujours deux choses. Un droit de visite. Les navires de guerre des États signataires peuvent visiter les navires de commerce de ces mêmes États pour voir s'il y a à bord des esclaves. Deuxième chose qui apparaît dans tous ces accords bilatéraux, c'est donc des commissions mixtes. S'il y a des esclaves à bord, que fait-on? Eh bien, le navire est rapatrié dans la colonie britannique de Sierra Leone, où siègent des tribunaux mixtes, puisqu'il y a à la fois des représentants des deux États signataires. Mais les Anglais ont bien prévu les choses. Il y a toujours une personne, sur cinq personnes, il y a toujours trois Anglais, et deux personnes de l'autre nationalité. En plus, les Anglais qui siègent là sont bien payés, l'Angleterre insiste sur la chose et siège effectivement. Les Français ou d'autres ne sont pas toujours présents. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce droit de visite et ces commissions mixtes, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place, à faire accepter. Ce sont des principes de supranationalité. On a l'habitude depuis... le XVIIe siècle, en Europe occidentale, le principe de la mer libre. Le pavillon, c'est le territoire. Que des militaires mettent le pied sur un navire de commerce d'une autre nation, ça peut être un acte de guerre. C'est un acte de guerre s'il n'y a pas de traité. Alors c'est vrai qu'on connaissait le droit de visite depuis le Moyen-Âge. Mais ce droit de visite était utilisé simplement de manière très rare, en cas de guerre, pour voir si le navire neutre transportait pas des armes pour l'un des belligérants. Le combat pour l'abolition de la traite fait entrer, je dirais, dans le temps de paix, dans la vie quotidienne, une action qui auparavant était exceptionnelle et réservée au temps de guerre. C'est quand même une innovation importante. Et donc, petit à petit, se mettent en place des accords bilatéraux entre l'Angleterre et les autres puissances. On peut dire que vers 1842, quand les Américains la signe aussi, on peut dire que finalement toutes les nations qui sont plus ou moins liées à la traite illégale ont signé des accords bilatéraux. À ce moment-là, la traite par l'Atlantique est de plus en plus surveillée et il devient de plus en plus suicidaire d'un point de vue économique d'envoyer un navire faire la traite. La photographie qui est à l'écran montre que finalement le même phénomène est appliqué dans l'océan Indien, mais cette fois-ci dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les Français envoient, on ne sait pas suffisamment, les archives sont à l'Orient, les Français envoient une station navale dans l'océan Indien en 1858. Les Anglais en envoient une aussi. Et donc là aussi, on est navires de guerre qui vérifient, qui patrouillent, qui vérifient. Donc l'océan Indien, avec Zanzibar comme plaque tournante, devient de plus en plus contrôlé également. Cette question de la répression de la traite illégale ouvre à une autre question, celle de l'intervention sur le sol africain. Parce qu'on arrête au large, souvent, des navires qui embarquaient des esclaves. Mais on ne va pas arrêter la traite à sa source. Et donc, dès les années 1820, des commandos de marine britanniques, parfois, débarquent sur le sol africain. Dès les années 1820, des navires de guerre bombardent parfois des sites sur les côtes africaines, des sites où les esclavagistes se sont installés, concentrent des captiveries, etc. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle ensuite la politique de la canonnière. Néanmoins, c'est encore ponctuel. C'est limité au littoral. Et c'est parfois critiqué. Bouet-Villaumé, qui est un responsable de la station française en Afrique occidentale, écrit un livre en 1848, où il dit que, vraiment, si on souhaite faire du commerce avec les nations africaines, commencer par bombarder le littoral, c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Et donc, tout ça nous montre que, voilà, y a des tentatives de pénétration, d'influence sur le sol africain, mais jusqu'au milieu du XIXe siècle, elles sont encore limitées. Elles sont limitées parce que le mouvement est de plus en plus critiqué. L'internationalisme abolitionniste se heurte en effet aux intérêts nationaux. Je prendrai le cas de la France. Il est très long de pousser la France à accepter les accords bilatéraux de répression de la traite. La France ne les signe qu'entre 1831 et 1833, alors que l'Angleterre les demande déjà à l'époque des 100 jours, au retour de Napoléon. Pourquoi la France rechigne-t-elle tant? Elle met en place une croisière autonome de répression de la traite. Les Français veulent réprimer leur traite. Ils ne veulent pas que les Britanniques s'en occupent. Parce que la France se sent en partie humiliée par la défaite à Waterloo. Et accepter les traités britanniques, ce serait donner l'impression qu'on accepte le diktat de cette nation qui a longtemps été ennemie. Et donc on voit comment les égoïsmes nationaux joue un rôle important. Et il y a un retournement. Tout à l'heure, je disais qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y avait un mouvement d'anglophilie en France et qui aurait rendu possible une coopération avec l'Angleterre. Après l'Empire, c'est plus possible. On est passé d'anglophilie à l'anglophobie. En 1831 apparaît un roman. C'est le premier roman du genre roman maritime. Il est écrit par Lacroix et c'est le Négrier. Et par Corbière, pardon. Lacroix a écrit autre chose. Par Corbière. Son titre, c'est Le Négrier. Et le héros de ce livre est un capitaine qui fait la traite illégale. Et dans un passage de ce roman, il dit en substance, les Anglais veulent nous obliger à arrêter la traite, et bien justement parce qu'ils demandent, eh bien on la fera. Et à l'Assemblée, lorsque les abolitionnistes disent « voilà, il faut quand même mettre un terme à la traite, etc. » On a des lois, mais elles ne sont pas respectées. Leurs adversaires disent, et en argument facile, « oui, l'abolition, c'est un moyen dans l'Angleterre, c'est un complot britannique pour abaisser l'économie française. » Et on voit comment, justement, le sentiment national devient un obstacle. Un frein à l'abolition en France. Et il faut donc la révolution pour que les accords soient signés avec les Anglais en 31 et en 33. Deuxième exemple, plus lointain, puis on a pas dit qu'il y avait une traite atlantique et une traite dans l'océan Indien. Autre exemple, Émilie Ruette, R-U-E-T-E, c'est la fille d'un prince de Zanzibar, qui tombe amoureuse d'un négociant allemand et qui va vivre en Europe. Elle publie ensuite ses mémoires. Émilie Ruette est profondément choquée par le discours abolitionniste occidental qui décrit Zanzibar et l'Orient en général, ce sont les termes qui apparaissent dans le livre, l'Orient, comme des terres barbares où finalement il n'y a aucune liberté, etc. Et par réaction à ce discours abolitionniste britannique très dur vis-à-vis d'un Orient en partie mythifié, Ruette critique les abolitionnistes britanniques en disant « ces gens gentils et qui ne connaissent rien et qui tricotent des chaussettes pour les pauvres esclaves de Zanzibar ». Et donc on voit là aussi que un discours porté par de bonnes raisons, l'abolition, peut parfois, lorsqu'il est trop frontal, conduire à une réaction inverse, à un raidissement. C'est le cas chez Émilie Ruette. Et je dirais que même en Angleterre, au milieu du XIXe siècle, des voix se font entendre contre l'abolition. En 1850, Hutt est l'auteur d'une résolution qui n'a pas été votée, a accepté, mais s'il avait été accepté, la résolution Hutt obligeait l'Angleterre de se retirer de tous les traités où elle aurait pu être obligée pour respecter le traité, d'intervenir militairement. De fait, elle a dû se retirer de tous les traités bilatéraux de répression de la traite illégale. C'est qu'en Angleterre, certains se disent la répression de la traite, c'est un navire de guerre qui patrouille, ça coûte cher. La répression de la traite, c'est aussi, on subventionne le sucre libre, les plantations de sucre sans esclaves. Les subventions sont payées par un contribuable britannique. Et un historien, Simon Drescher, a fait un calcul en agglomérant toutes les dépenses liées à l'abolition de la traite. Il arrive à l'idée que c'est 1,8% du revenu national britannique entre 1806 et 1863. Donc l'abolition a un coût important. Donc des voix se font entendre et critiquent l'abolition. D'autres séparent, sont pas forcément des voix d'esclavagistes, d'autres séparent idéologie libérale. Certains se disent la répression, c'est une entorse au droit de circuler, au droit de faire du commerce, etc. Et on trouve même des Français qui, plus tard, à la fin du XIXe siècle, l'écrivent dans un dictionnaire d'économie politique. Les abolitionnistes se sont trompés. Pas abolir la traite par les parlements. Il suffisait d'enlever toutes les troupes des colonies. L'esclavage n'a pas pu durer, parce que certains pensent que l'esclavage en lui-même n'est pas rentable. Il n'est rentable que par les subventions des métropoles. Bon. Donc tout ça pour dire qu'il y a des voix contraires dans les années 1850 et que à ce moment-là, la réussite du projet abolitionniste est loin d'être sûre. Et donc, pour conclure cette seconde partie, je voudrais insister sur cette idée force, c'est que la question de ce soir nous montre qu'il y a, dès l'époque, et aujourd'hui encore, parfois un conflit entre l'internationalisme des droits de l'homme et des intérêts nationaux. Ou ce qui est perçu comme étant des intérêts nationaux. Les esclavagistes dans les différentes assemblées disent que mettre un terme à la traite et à l'esclavage, ce serait ruiner les métropoles. Et donc, veulent faire peur à leurs concitoyens. Ce qui, finalement, est un argument qui ne tient pas forcément la route. Mais en politique, ce qui est important, c'est pas forcément ce qui est vrai, c'est ce qui est cru. Il tient pas forcément la route parce que la traite française, par exemple, s'est arrêtée toute seule après 1792. Lorsque la France déclare la guerre aux puissances européennes, la marine française est rapidement vaincue et donc il devient suicidaire d'un point de vue économique d'envoyer des navires négriers. Et donc la traite française disparaît jusqu'en 1814. La France n'a pas été ruinée, personne n'a été ruiné par l'interruption momentanée de la traite. Mais le discours est là. Et les intérêts réels ou supposés des nations occidentales sont mis en avant contre ce combat en faveur des droits de l'homme. On trouverait aujourd'hui quantité d'exemples où les droits de l'homme sont mis en regard avec les intérêts supposés des nations. Alors, il est temps d'aborder maintenant la troisième partie, donc essayer de répondre à la question posée en introduction. Y a-t-il un lien entre l'abolitionnisme et la colonisation? On peut dire dans un premier temps que, pour certains historiens, la traite aurait retardé la colonisation de l'Afrique noire. Quand on prend du recul et que l'on compare ce qui s'est passé en Amérique du Nord, enfin en Amérique tout court et en Afrique, il y a quand même une différence fondamentale. L'Amérique est découverte, entre guillemets, par les puissances occidentales. Elle est aussitôt colonisée, pillée, mise en valeur, entre guillemets, etc. L'Afrique noire est visitée par les Portugais dès le milieu du XVe siècle. Elle est colonisée à la fin du XIXe. l'Afrique n'est pas colonisée de suite. Ça s'explique, disent certains, par le fait que finalement, on tire profit de l'Afrique sans la coloniser directement. Ça s'explique aussi par les maladies. Hein. Avant l'invention, enfin la découverte de remèdes, les fièvres tuent énormément. Hein. Ça s'explique aussi par la puissance des États africains qui, sur les côtes, contrôlent la traite. Hein. En tout cas, certains pensent que la traite aurait retardé la colonisation de l'Afrique noire. Et d'autres disent que, une fois que la traite est abolie, au contraire, l'abolition aurait accéléré la colonisation. Retournons à notre histoire compréhensive. Comment les gens de l'époque, les abolitionnistes, percevaient les choses? Et je dirais que le premier abolitionnisme n'est pas forcément colonisateur. À condition de s'entendre sur le terme de colonisation. Je vais vous lire un extrait des mémoires de Olodai Quiano. Olodai Quiano est un ancien esclave qui s'est racheté et qui donc est devenu libre et qui a milité en faveur de l'abolition. Il écrit ses mémoires en 1788. La population, les entrailles, le sol de l'Afrique regorgent de ressources précieuses et utiles. Les trésors dissimulés pendant des siècles seront exhumés et mis en circulation. Les industries, les entreprises, les mines prendront leur véritable développement en fonction de la marche de la civilisation. En un mot, un champ infini s'ouvre au commerce des fabricants et négociants britanniques qui oseront. Si l'on permettait aux Noirs de rester dans leur propre pays, leur nombre doublerait tous les 15 ans. C'est en proportion de cet accroissement que se feraient les demandes en objets manufacturés. Le coton et l'indigo poussent à l'état spontané, presque partout en Afrique, considération qui n'est pas sans avoir de grandes conséquences pour les villes industrielles de Grande-Bretagne. Ceci ouvre des perspectives infinies. Là, on a un abolitionniste, qui est un ancien esclave, qui semble dire, colonisons-le, mettons un terme à la traite, parce que la fin de la traite permettra de s'enrichir en faisant du commerce avec l'Afrique noire. Si on lit ça au premier degré, c'est clair, on peut avoir un projet de colonisation. En fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on ne peut rien comprendre du discours abolitionniste si on n'a pas étudié en même temps le discours de leurs adversaires. Chacun avance un argument pour répondre à l'autre. Or, l'un des arguments premiers des défenseurs de l'esclavage, c'est de dire que il est impossible de mettre un terme à l'esclavage et à la traite parce que ça ruinerait les nations occidentales. Donc les abolitionnistes, pour ne pas traiter de traîtres à leur nation, ce qui est souvent le cas, doivent montrer que l'abolition, la traite d'esclavage, c'est pas simplement juste. C'est qu'en plus, ça pourrait être utile. On pourrait faire des bénéfices. Et donc, lorsque Equiano écrit cela en 1788, il dit ce que disent beaucoup d'abolitionnistes occidentaux, qui sont sur la défensive, sans le croire vraiment. D'ailleurs, c'est l'image d'une Afrique un peu mythifiée qui apparaît. Le coton pousse à l'état naturel, spontané partout. En 15 ans, la population doublerait. C'est l'image d'une luxuriance de la végétation appliquée à tous les domaines. C'est une Afrique rêvée qu'on ne connaît pas. Et ce que souhaitent les premiers abolitionnistes, c'est en fait, ils le disent clairement, mettre en place un commerce dit légitime. Remplacer l'échange d'hommes, de femmes et d'enfants contre des produits par un échange entre des produits tirés du sol africain par le travail des Africains et des produits manufacturés du travail des Occidentaux. Et les termes même, on parle d'un commerce infirme d'un côté, d'un commerce légitime de l'autre, les termes même de l'époque nous montrent qu'on est dans cette économie morale. Et donc, dans un premier temps, les abolitionnistes ne sont pas de fervents colonisateurs. Ils pensent remplacer un commerce infâme par un commerce légitime. Là aussi, c'est un document de l'époque, 1814. Les Anglais, là, on nous présente les Anglais qui arrivent avec un document, un papier, pour dire, voilà, nous avons décidé, nous, généreux, d'abolir la traite d'esclavage, et on vous l'annonce, à vous, Africains. Il y a un fanion, commerce et industrie. Et on voit, sur la côte, une sorte de combinaison de tout ce qu'on imagine être africain. Alors, on a des montagnes, on a des animaux exotiques, etc. Tout ça nous montre que finalement, les Européens ne connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent pas l'Afrique du tout. Et l'idée, donc, n'est pas de coloniser, dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire de dominer politiquement des territoires. L'idée de remplacer un commerce par un autre, infâme par un commerce légitime, et par l'émulation, grâce à des comptoirs dissimulés sur les côtes, de favoriser l'essor de ce commerce légitime. Les choses commencent à changer dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Lorsqu'on commence à explorer l'intérieur de l'Afrique. Auparavant, et un historien l'a écrit, Hubert Deschamps, dans un livre ancien intitulé « L'Europe découvre l'Afrique », 1900, Hubert Deschamps disait qu'au début du XIXe siècle, pour un Européen, l'Afrique est un monde aussi inconnu que pouvait être la Lune. Et on a tous à l'esprit ces cartes de l'Afrique, avec ces littoraux bien dessinés que l'on connaît, mais avec cet intérieur peuplé de peuples imaginaires, de grands blancs, etc. Voilà, on ne connaît pas du tout l'Afrique intérieure. L'exploration de l'Afrique intérieure commence en Afrique occidentale, avec le voyage de Mungo Park en 1798. Ses ouvrages ensuite deviennent des best-sellers. Il y a d'autres voyageurs français et autres qui y vont, René Caillé par exemple. Et vers 1830-40, il y a un premier temps d'arrêt de cette découverte de l'intérieur. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a un autre mouvement beaucoup plus vaste de découverte de l'intérieur de l'Afrique noire, mais surtout en Afrique orientale. Livingston, Cameron et d'autres. Et dans les récits de voyage de ces explorateurs, on a des documents de ce type. Scènes de capture d'esclaves. On voit ici surtout des captures sur une très grande ampleur, presque une armée qui est là pour faire des esclaves en grand nombre. Ici, des esclavagistes font le siège de pauvres personnes qui sont réfugiées dans un arbre. Là, c'est en Afrique orientale, c'est un campement d'esclavagistes. On voit là aussi qu'on a affaire à quelque chose, sur une très grande ampleur, avec des campements permanents, et on a des troupeaux qui sont là pour nourrir les personnes. Et voilà, on a des troupes qui sont là de chasseurs d'esclaves, en quelque sorte. Dans ces récits de voyage, on trouve d'autres illustrations qui insistent non pas simplement sur l'ampleur de la traite interne en Afrique noire, mais sur l'aspect terrible de la capture et surtout du transport. Ici, évidemment, l'essentiel, c'est la disproportion des forces entre les fusils d'un côté et les lances de l'autre. Quoique, disproportion des forces, la plupart des troupes coloniales, des soldats coloniaux qui sont morts, sont morts non pas de coups de fusil, mais de lances ou d'autres armes qui étaient très efficaces. En tout cas, on insiste beaucoup sur les conditions terribles du transport des esclaves à l'intérieur du sol africain. Avec, ça c'est tiré de Livingstone, avec ces esclaves enchaînés, et puis dont les coups de deux personnes sont rassemblés par ce qu'on appelle la cangue. Quantité d'illustrations qui nous montrent que les esclaves affaiblis sont abandonnés à leur triste sort. Démarche terrible sous le fouet. Les esclaves qui ne peuvent plus avancer, qui ne pourront pas être vendus, sont exécutés. Parce que si on les laissait sur place, ils pourraient récupérer, s'enfuir ou être récupérés par d'autres qui pourraient les vendre à leur tour. Et ces scènes d'égorgement, d'assassinat, apparaissent dans de nombreux ouvrages d'explorateurs. Autre scène, après celle de la capture, du transport, celle qui concerne les marchés d'esclaves. Alors, que dire de ces documents? Tout d'abord que ces documents sont largement popularisés dans la presse populaire de l'époque. Ces gravures sont extraites des ouvrages et donc paraissent dans la presse populaire. Et donc ça développe l'idée dans le monde occidental qu'il y a un esclavage très ignoble en Afrique noire et qu'il est très important. Et ça choque. Beaucoup pensaient que dès lors que la traite atlantique aurait disparu, l'esclavage disparaîtrait aussi en Afrique. Or, on s'aperçoit qu'il ne disparaît pas et, au contraire, qu'il semble se développer. En tout cas, qu'il est très important. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est pour ça que l'étude des corpus est essentielle, c'est que lorsqu'on analyse tous ces récits de voyageurs, on s'aperçoit que ces gravures, finalement, sont pas si nombreuses que cela. Dans un récit de voyage, il y en a une ou deux, ou trois, mais il y en a une quinzaine ou vingtaine qui nous montrent des plantes tropicales, des villes, etc., d'autres choses. Certains voyageurs, dans le récit, consacrent un chapitre à la question, d'autres, même pas, simplement des passages ici ou là. Et donc, ces moments choisis sont montés en épingle dans la presse populaire. Et développe l'idée qu'il est non seulement utile, mais nécessaire d'intervenir pour mettre fin à ce fléau. Et là, je voudrais vous lire un autre extrait, celui d'un texte écrit par le cardinal Lavigerie en 1888. Savez-vous combien la traite musulmane vend d'esclaves depuis 10 ans dans l'intérieur de l'Afrique? Je ne vous donne pas seulement le chiffre de mes missionnaires, il est le fondateur des Pères Blancs. Il est de 400 000 par an. Je vous donne celui de Cameron. Cameron, c'est un protestant. Cameron qui est au minimum, dit-il, de 500 000. Vous entendez, 500 000 esclaves vendus chaque année sur le marché de tout l'intérieur africain, dans les conditions que je viens de dire. Mais je ne parle que d'esclaves vendus. Et pour tout comprendre, on doit ajouter, selon les explorateurs et selon nos pères, à chaque esclave mis en vente, les victimes massacrées dans la chasse humaine ou mortes de souffrance et de faim dans les caravanes qui se rendent sur les marchés. Les uns disent 4, les autres 5, d'autres enfin, comme vous l'avez vu chez Livingstone, jusqu'à 10 morts pour un seul esclave. Cela fera en moyenne 2 millions de Noirs mis à mort ou vendus chaque année, et en 50 ans, au plus, la déportation complète de l'Afrique intérieure. Il faut, pour comprendre ce texte, rappeler le contexte. Le cardinal Lavigerie est le bras droit du pape Léon XIII. 1888, c'est l'année où l'esclavage est aboli au Brésil. C'est le dernier État américain à abolir l'esclavage. À partir de cette date, il n'y a plus d'esclavage aux Amériques. C'est à ce moment-là que le pape, Léon XIII, décide avec Lavigerie de lancer une croisade pour abolir l'esclavage en Afrique noire. Dans ce contexte, il y a aussi la volonté de contrer les protestants qui ont longtemps été un peu en tête en matière de mouvement abolitionniste. Et là, Lavigerie cite Cameron, cite des protestants. Il s'agit de montrer, comme le dit le pape, comme le dit, l'écrit le pape Léon XIII, de montrer comment est importante la mission civilisatrice de l'Église catholique. Et puis, faisant attention au terme, savez-vous combien la traite musulmane vend d'esclaves? La traite musulmane. Il s'agit également, à l'époque où on colonise l'Afrique noire, de lutter contre une religion concurrente, perçue comme étant concurrente. La Lavigerie l'écrit, il le dit clairement. Quelqu'un converti au mahométisme, pour prendre ces termes, ne pourra plus jamais devenir chrétien. Et on a donc, dans les textes de la Lavigerie, dans les textes de l'époque, on a une tonalité anti-musulmane tout à fait évidente. Donc, dans ce contexte où il n'y a plus de traite et d'esclavage aux Amériques, il faut, principe universel, s'intéresser à d'autres régions du monde où elles se développent, et concurrence entre les catholiques, les protestants et l'islam. Mais surtout, dans cette première partie de l'extrait que j'ai cité, on a un des éléments de la rhétorique du droit d'ingérence pour les droits de l'homme d'aujourd'hui, on a l'idée de l'urgente nécessité. Si on ne fait rien, en 50 ans, il n'y aura plus un seul habitant en Afrique, nous dit la Vigerie. Est-ce qu'il exagérait volontairement? Est-ce qu'il pensait réellement ce qu'il disait? En tout cas, ceux qui le lisent, et ils multiplient le discours en France, en Belgique, ailleurs, ceux qui l'entendent se disent « il est important d'agir immédiatement ». Là, l'urgente nécessité, c'est un des éléments de la rhétorique du droit d'ingérence toujours actuel. Deuxième extrait de ce texte. C'est le désir de contribuer à faire cesser tant de malheurs qui a donné naissance à la mission que je viens de remplir au nom même du vicaire de Jésus-Christ. C'est lui qui explique et justifie le but de la croisade anti-esclavagiste, sont ces termes, dont je dois parler maintenant. Ensuite, c'est aux femmes que j'adresse principalement cette prière. Il leur appartient maintenant de faire connaître partout de telles horreurs et d'exciter contre elles l'indignation du monde civilisé. C'est en se sentant ainsi soutenu, entraîné, sommé, pour ainsi dire, par les organes de l'opinion, que les gouvernements prendront en courage pour des efforts nouveaux. L'appel aux femmes, qui ont joué un rôle important dans l'abolitionnisme britannique, l'appel à l'opinion publique. C'est ainsi qu'on suscitera dans chaque nation assez de bienfaiteurs pour créer une croisade commune, des ressources suffisantes, il y a des quêtes, on veut récupérer de l'argent, faire pression sur le gouvernement, assez de dévouement personnel pour supplier par des milices volontaires aux troupes régulières dont le gouvernement dispose. On a d'un côté l'urgente nécessité, de l'autre l'ardente obligation de faire quelque chose. Il manque dans ce texte, mais évidemment le texte est long, mais dans les autres parties du texte, ça manque aussi, dans tout le discours de la Vigerie, ça n'apparaît pas, il manque une réflexion sur les mécanismes véritablement à l'œuvre. Cette traite est-elle si importante qu'il le dit? Qu'est-ce qui permet de l'expliquer? Ça ne l'intéresse pas. Un peu comme dans la rhétorique actuelle, le droit d'ingérence pour les humanitaires, où finalement l'urgence est telle qu'il faut intervenir sans se poser la question finalement des mécanismes, et on renvoie ça à plus tard. Et donc, on a clairement, en 1088, dans ces textes de la Vigerie, des éléments toujours actuels de cette rhétorique. Alors, pour conclure, parce que donc on m'avait donné à peu près 1h15, pour conclure, je dirais que si on essaie de faire un bilan, on a d'un côté des avancées considérables. Un arsenal juridique international a été mis en place, permettant des actions de plus en plus efficaces. Si la traite par l'Atlantique cesse dans les années 1850 et 60, c'est parce que la répression est tellement forte que toute personne qui veut ramener à vivre la traite va perdre son investissement. Donc, ce sont d'abord les lois, et c'est la mise en l'application effective des lois par la répression qui met un terme à la traite par l'Atlantique. Donc il y a une efficacité réelle. D'autre part, néanmoins, il y a certaines limites. La Vigerie nous dit il faut aller sur le sol africain, envoyer des milices, et donc ça ouvre la porte à la colonisation véritable, pour mettre un terme à l'esclavage. La colonisation a-t-elle mis un terme à l'esclavage? C'est vrai que partout, l'esclavage a reflué. Il n'a pas forcément disparu. D'une part parce que les colonisateurs ont voulu s'appuyer sur des élites locales qui en partie vivaient de la traite. Et d'autre part parce qu'une fois que l'Afrique a été colonisée, les colonisateurs ont voulu, entre guillemets, la mettre en valeur. Et pour cela, il fallait une main-d'œuvre. Et ils ont eu recours à ce qu'on appelait à l'époque, par un euphémisme, le travail forcé. Et évidemment, les colonisateurs se sentaient mal à l'aise. Ils sont venus pour mettre un terme à l'esclavage, entre autres choses, et voilà qu'ils recourent au travail forcé. Et donc, à l'époque, il y a quantité de thèses, y compris de droit, qui nous montrent que le travail forcé, c'est tout à fait différent de l'esclavage. D'ailleurs, dit-on, le travail forcé ne fait que reprendre les modalités du travail forcé ou l'esclavage traditionnel africain qui était doux. Et c'est l'idéologie coloniale qui met en place l'idée que l'esclavage, auparavant, en Afrique noire, il y a un esclavage doux. Là, c'est au début du du XXe siècle, lorsque la colonisation est mise en place. Remarquez l'écart considérable entre ce cliché et l'autre cliché que l'on a vu sur les documents iconographiques, au contraire, on stigmatisait cet esclavage. En une génération, parce qu'il fallait justifier le travail forcé, on a dit que cet esclavage qui était particulièrement atroce auparavant, en fait, était particulièrement doux. On voit comment, en fonction des intérêts, le discours peut changer complètement. Puis on pourrait trouver d'autres limites. En 1880, un boutre, donc un navire adapté donc à l'océan Indien, un boutre francisé, les Français ont donné aux propriétaires le droit de porter le pavillon français, un boutre francisé est saisi par les Britanniques. Il s'appelle le Jamila, le boutre. Problème, à bord, il y a des esclaves. Donc forcément, le consul britannique, à Zanzibar, critique l'action française. Quoi. Vous êtes là pour... vous avez une station navale pour empêcher la traite illégale et vous donnez un pavillon à des esclavagistes. Et on trouve dans les archives le consul français qui nous dit, il transmet à Paris en disant que pour calmer le consul britannique, on a fait une grande cérémonie et on a brûlé devant le consul britannique le navire en question pour montrer notre bonne volonté. Et le consul français a rajouté, de toute manière, le navire ne pouvait plus naviguer. Donc il y a forcément toujours des limites, toujours une dose d'hypocrisie. Et je dirais que ces limites sont-elles singulières au moment abolitionniste ? Y a-t-il même aujourd'hui un droit d'ingérence pour raison humanitaire qui serait pur, dénué d'autres intérêts ? Pas sûr. D'un autre côté, parce que ce droit d'ingérence pour raison humanitaire ne serait pas ou ne peut pas être totalement pur, parce qu'il y a aussi d'autres aspects qui entrent en jeu. Est-ce qu'il faut pour cela aussi, pour cette raison, le critiquer et ne pas intervenir ? C'est une question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse, mais que je voulais poser en fin de parcours. Merci de votre attention.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie pour l'excellence de votre exposé. Je voulais faire un petit rappel concernant la traite occidentale et celle musulmane. Chaque fois qu'on parle de traite négrière occidentale, et chaque fois qu'on parle d'abolition, c'est seulement en parlant de traite négrière occidentale, mais pas de celle musulmane. Pourquoi cela ? C'est ma première question. Ma deuxième question commence par ce rappel. Et on a constaté qu'il y a eu un boom dans l'esclavage dans la région de l'Afrique occidentale, le sud de l'Afrique occidentale, à partir de l'année 1235, qui correspond au renversement d'un souverain qui s'appelait à l'époque Soumaoro Kanté, face à celui qui détenait les rênes de l'empire du Mandingue, Sundiata Keïta. Ce renversement, on le sait, on l'a appris dans l'école que nous avons fréquentée, et aussi dans des archives d'explorateurs arabes qui se sont limités à Tombouctou. Je veux parler d'Ibn Battuta, d'Ibn Khaldoum. Dans leur mémoire, on a des traces de cela. Mais Sundiata Keïta a été soutenu par les Almoravides pour renverser Soumaoro Kanté, qui était un des premiers noirs à s'opposer à l'esclavage. On n'en parle jamais. On ne parle jamais de l'abolition quand on parle de l'esclavage musulman. Je voulais savoir pourquoi. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous les dire ? Et aussi rappeler que quand on parle de Sundiata Keïta, il y a une grande imposture. On fait passer Sundiata Keïta pour le grand souverain de l'Afrique au sud du Sahara, alors qu'en face, il y avait quelqu'un qui se battait contre la traite négrière et qui était là, qui avait ses guerriers, qui s'opposaient à toute razzia d'esclaves partant de l'Afrique au sud du Sahara vers le nord. Et vers le nord, je parle aujourd'hui de l'exemple de la Mauritanie. On a plus de 50% de la population mauritanienne, qu'on appelle des Aratines, qui sont des descendants d'esclaves. Et 50%, ça fait beaucoup. Je ne parle que du cas de la Mauritanie. On peut continuer sur tout le sud de la bande du Maghreb jusqu'en Égypte. Les populations arabes qui se trouvent dans ces différentes régions se reconnaissent de culture arabe, mais ils viennent d'Afrique au sud du Sahara.
Et comment percevez-vous c'est moi qui vous pose la question, la position de ces haratins ou haratines, oui. Pour vous, comment vivent-ils?
Mais ils vivent arabes, moi je les comprends. C'est exactement la même chose qui s'est passée avec les Antillais. On les a amenés aux Antilles, il y a eu une espèce de déshumanisation qui a été menée sur eux. Aujourd'hui, ces Antillais ne se reconnaissent pas totalement africains, parce que ça fait 4 siècles de vécu dans des conditions abominables,
oui.
Par le fait de l'Église et aussi le fouet du maître. C'est comme si on a un ordinateur qu'on prend et qu'on efface complètement toute la mémoire et qu'on essaye de réintroduire un autre programme. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec les haratines.
Voilà. Donc nous sommes d'accord, les haratines sont une population qui est issue de l'esclavage et qui vit encore difficilement à cause du préjugé qui pèse sur eux. Il y a des mouvements d'ailleurs, mouvements de contestation des haratines qui demandent une véritable libération parce que finalement ils sont peut-être théoriquement libres, mais encore la macule servile qui pèse sur eux. Hein. Et le grand africaniste Roger Bott a écrit des choses sur cela. Hein. Donc ça pour dire que vous avez raison qu'il y a encore une persistance, non pas forcément l'esclavage, quoique parfois c'est véritable esclavage, mais souvent il y a une persistance de la macule servile, hein, en Afrique noire. Mais pour répondre à votre question, pourquoi ne parle-t-on pas de l'abolition de l'esclavage ou de la traite musulmane? D'abord, vous avez sans doute été attentif, j'ai mentionné comment l'Avigerie parlait de traite musulmane. Voilà, j'ai mis des guillemets. Moi, personnellement, je ne parle pas de traite musulmane. Ni de traite arabe, je parle de traite orientale, parce que je parle de traite occidentale vers les Amériques. En fait, c'est peut-être pas d'ailleurs les termes les plus adéquats, mais pour l'instant, il me semble que ce sont ceux qui posent le moins de problèmes. Parler de traite musulmane, ce serait stigmatiser une religion. On ne parle pas de traite chrétienne, donc je ne parlerai pas de traite musulmane.
Je peux vous aider, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons...
Merci.
Oui, je vais vous aider, pour vous rassurer. Nous avons... une ethnie au Mali qu'on appelle les Bambara. Les Bambara n'ont jamais existé. Bambara en soninké veut dire Bambana. C'est-à-dire ceux qui ont refusé le dogme. Le dogme, c'est quoi? C'est la philosophie qui venait du Sahel, du Sahel plutôt. Ce dogme, c'est la religion.
Et, oui. Alors,
non, je finis l'explication. Oui. Les Bambana, c'est les soninké. C'est ceux qui ont refusé la religion. Et pour les indexer aux musulmans qui venaient, qui traitaient directement avec ceux qui ont été convertis, on indexait les Bambara, on disait, ce sont les Bambana, c'est-à-dire ceux qui ont refusé votre religion. Et c'est comme ça qu'est née cette ethnie qui n'existait pas avant 1235. C'est après 1235 que cette ethnie Bambara existe. Les Bambara, quand vous partez au Mali, la définition du Bambara, c'est celui qui vous dira devant vous que Allah le veuille ou pas, je ferai ce que je voudrais. C'est des grands animistes. Voilà, s'il y a des gens qui connaissent le Mali, ils peuvent témoigner de cela tout de suite.
Bon, alors je rebondirai sur ça et je répondrai à votre question.
Oui.
Alors, vous avez raison de faire un lien entre la traite que moi j'appelle orientale, par neutralité, pour ne pas stigmatiser une religion chrétienne ou musulmane. Et ce souci de neutralité n'empêche pas de voir l'évidence, à savoir qu'il y a des liens entre la traite et l'islam. Mais je dirais que des liens parce que pour un musulman, théoriquement, on ne peut pas réduire l'esclavage à un autre musulman. Donc, sauf en dehors d'un djihad, etc., d'une guerre sacrée, voilà. Et donc, théoriquement, ne peut être esclave dans le monde musulman que des non-musulmans. Maintenant, dans les faits, il y a eu quantité de casuistiques dans le monde occidental, et puis il y a des populations islamisées, noires et islamisées, qui ont été quand même soumises à l'esclavage en disant que, voilà, elles se sont converties, mais avant, elles n'étaient pas... Voilà. Donc, la religion a joué un rôle. Mais je dirais que comme dans le monde occidental, il me semble qu'elle a joué un rôle en fournissant des alibis pour réduire en esclavage. Des alibis. Et que si on réduit des gens en esclavage, ce n'est pas pour les convertir, c'est pour des raisons économiques, politiques et autres. Mais que dans des mondes profondément croyants, dans le monde musulman ou dans le monde chrétien, l'époque moderne et début de l'époque contemporaine, forcément l'alibi religieux joue un rôle important. Donc il y a des liens, mais à mon sens, ce sont des alibis. Maintenant, je voudrais quand même répondre à votre question. Hein. Pourquoi ne partons pas de l'abolition de l'esclavage dans le monde musulman, en terre d'islam, je dirais. On en parle. Il y a un beau livre de William Gervase Clarence Smith, un anglais, sur la question. Et il y a un beau livre de Roger Bott sur les abolitions plurielles en terre d'islam au pluriel, paru il y a 2-3 ans chez André Versailles éditeur, hein, une collection que je co-dirigeais avec un universitaire de Genève. Donc on en parle. J'en ai pas parlé ici parce que moi, je me suis intéressé au mouvement abolitionniste occidental. Et puis aussi parce que finalement, il y a... Peut-on parler d'abolition? Les deux mouvements, parce qu'il y a des contestations de l'esclavage anti-africaine, anti-africaine animiste, anti-africaine musulmane. Il y a des contestations de l'esclavage, comme il y a des contestations de l'esclavage en terre occidentale. On a oublié qu'au XVIe, au XVIIe siècle, des religieux, Las Casas et d'autres, sont opposés à la traite par l'Atlantique. Mais je dirais que, et Clarence Smith le montre bien, que finalement, on a un petit peu, dans le monde, en terre d'islam, à des périodes très proches de nous encore, on est toujours dans cette casuistique, comme le père Fromageau. C'est-à-dire, chez des gens profondément religieux, on se demande ce que les textes disent. Et comme les textes, de toute façon, sont ambigus, on peut y trouver ce que l'on veut, et puis il y a des interprétations des textes. Et donc finalement, à mon sens, il y a eu partout, je le dis d'entrée, l'esclavage n'a jamais été quelque chose allant de soi. Il y a eu partout des contestations. Mais il me semble que dans le monde occidental, la contestation a pris la dimension d'un mouvement abolitionniste populaire, des pétitions, des millions d'Anglais en signe des pétitions, etc. Et ça s'explique pour quantité de raisons. Des raisons politiques, la démocratisation de ces pays, la naissance d'une opinion publique, etc. Et donc, il y a un mouvement abolitionniste occidental qui est original. Et puis, ailleurs dans le monde, et en Asie aussi, il n'y a pas simplement l'esclavage en Afrique noire, dans le monde asiatique aussi, y compris l'empereur Wang Mang en 9 de notre ère en Chine. Ailleurs, il n'y a pas eu l'émergence de mouvements abolitionnistes, d'opinions publiques, de pétitions, etc. Il y a eu des contestations, je dirais, en ordre dispersé, et qui s'apparente plus à cette casuistique et qui est essentielle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans le monde occidental. Donc, il y a eu partout du monde de contestations, mais à mon sens, ils se sont organisés de manière très différente. Il y a presque une opposition de nature entre les deux. Mais en tout cas, il y a des contestations très anciennes, et elles sont étudiées, elles devraient être étudiées encore plus, mais elles le sont. Hein. D'autres questions ?
La stigmatisation, justement. Et en essayant d'éviter de parler de religion, et pour ne pas dire qu'on est en train de stigmatiser, je crois qu'on fait une grosse erreur. Le dernier point, c'est que la religion a permis de mettre en place, dans cette région qui a beaucoup souffert de l'esclavage, une charte.
La religion a légitimé de manière évidente, vous avez raison.
Permettez-moi, parce qu'une charte qui est une espèce de constitution qui date de très très longtemps, de cette période, 1235, qui s'appelle la charte de Kurukanfuga, d'accord, qui est complètement calquée sur la charia, qui a permis de transformer le tissu social de cette région en succession de castes. Il y a des gens qui n'étaient pas islamisés, qu'on a éloignés complètement de tout ce qui est gestion du pouvoir. Le cas des griots. Les griots, on a dit aux griots de ne plus se mêler de tout ce qui est gestion du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été très très proches du premier qui s'est battu contre l'esclavage. Dans la charte du Kurukanfuga, quand vous le lisez jusqu'à la fin, vous verrez que ceux qui sont moins proches de l'islam, eux, on les a écartés du pouvoir.
Bon, écoutez, on va donner la parole à d'autres personnes.
Merci.
Mais pour résumer, je dirais que, je répéterai à nouveau, que la religion, dans le monde occidental ou non occidental, a joué un rôle très important pour légitimer l'esclavage. Mais maintenant, et ça c'est mon opinion, et c'est prouvé par les documents, je veux dire que les gens qui réduisent d'autres personnes à l'esclavage ne le font pas pour des motifs religieux, le font pour d'autres motifs. Par contre, voilà, il faut bien le légitimer.
C'est une question sur la différence entre l'esclavage moderne, entre guillemets, vers l'Amérique, ah, oui, et l'esclavage peut-être plus traditionnel, plus traditionnel avec au sens où le monde arabe ou asiatique a continué quelque chose qui a existé en Europe de 800 à 1300, un esclavage qui est un mode traditionnel de fonctionnement où on peut très bien avoir des esclaves qui ont une réussite sociale, qui deviennent des conseillers des sultans. Tandis qu'on n'a jamais vu un noir transporté d'Afrique devenir un conseiller du ministre américain. Et il me semble que dans l'esclavage traditionnel de l'Orient, je le défends pas, hein, c'est pour accentuer les différences. Il y a des possibilités, parce qu'on continue une histoire traditionnelle qui existe dans l'Antiquité. On peut, si on se débrouille bien, si on est intelligent, on peut avoir avoir des fonctions qui n'ont rien à voir à des fonctions serviles au sens moderne américain.
Okay.
Donc c'est cette différence que on pourrait creuser.
Oui. Alors moi je prendrai pas l'opposition esclavage traditionnel et non traditionnel, parce que le terme tradition, bon. La tradition, souvent, surtout dans les époques anciennes, est auréolée, finalement, de quantité de choses. La tradition, donc, c'est forcément mieux, c'est doux, etc. Pour deux raisons, je ne prendrai pas ce terme. Parce qu'il n'y a pas de définition à géométrie variable des droits de l'homme. Et qu'il n'y a pas d'esclavage qui serait doux, et d'esclavage qui ne serait pas tout à fait d'esclavage, et d'autres qui le seraient. Voilà. Et pour montrer, finalement, que il faut vraiment être attentif à ces expressions, c'est que on a des grands spécialistes d'histoire romaine, et qui et le tournant, c'est dans les années 1970. Dans les années 70, on a découvert, je dirais que on a changé de dominante. Auparavant, dans les années 70, on a vraiment mis en avant la réalité, la cruauté de l'esclavage aux Amériques. Et à partir de ce moment-là, certains spécialistes d'esclavage à d'autres époques se sont dit, mais dans le monde romain, on peut, comme vous dites, parfois réussir tous les esclaves, etc. Et donc, il y a une telle différence que on n'a même pas le droit de parler d'esclaves. Et certains auteurs, de grands historiens, se sont refusés à parler d'esclaves dans le monde gréco-romain. Bon, il y a quand même quantité d'auteurs qui ont montré que les esclaves sur les galères, dans les mines et ailleurs, n'avaient pas une situation très enviable. Donc, je dirais, à la fois pour des raisons de droits de l'homme et pour des raisons historiques et factuelles concrètes, j'utilise pas le terme d'esclavage traditionnel et non traditionnel. L'esclavage est condamnable, quelles que soient ses formes, quelle que soit l'époque ou la région où il a existé. Maintenant, c'est vrai, il y a des esclavages très différents. Il y a des variétés d'esclavage. Et c'est vrai que dans le monde, dans les mondes antiques, c'est vrai également qu'en Afrique noire, dans les terres d'islam, il y a une plus grande diversité d'horizons pour les esclaves. Certains peuvent devenir des confidents. Certains sont des conseillers dans l'Est africain, d'Afrique subsaharienne, sont des conseillers. Et ils ont d'ailleurs le privilège, en cas de mort du souverain, d'être enterrés vifs avec lui. Voilà. Maintenant, il est vrai qu'aux Amériques, on a eu affaire à un type d'esclavage dont l'une des originalités a été qu'il a été beaucoup plus typé que les autres types d'esclavage. C'est-à-dire qu'on a fait appel à des esclaves en tant que main-d'œuvre. On n'a pas de précepteur, on n'a pas de conseiller, etc. Il y a aussi une autre chose essentielle, c'est la racialisation de l'esclavage aux Amériques. Dans toutes les autres régions du monde, les esclaves venaient d'un peu partout. Même en terre d'islam, il y avait des Européens, des Slaves. On oublie le monde slave qui a été ponctionné, qui a été un réservoir d'esclaves depuis la plus haute antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle, pratiquement. Donc, des esclaves venaient d'un peu partout, de toutes les couleurs, entre guillemets. Aux Amériques, on a pris l'habitude, parce qu'au départ, on a même quelques esclaves slaves qui arrivent à Haïti au XVe siècle. Mais très très vite, on a pris l'habitude de ne voir arriver d'esclaves aux Amériques que des Africains, d'Afrique subsaharienne. Et donc, il y a une sorte d'équation aux Amériques, l'esclave est de couleur noire. Et ça, Ça, c'est un des caractères originaux, hein, essentiels de l'esclavage aux Amériques. Maintenant, ça ne veut pas dire que le racisme se soit limité à cet esclavage-là. Je dirais que, et c'est l'objet d'un livre qui paraîtra en avril chez Gallimard, quand on veut définir l'esclavage, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, quelle que soit l'époque ou la latitude. L'esclave, c'est d'abord l'autre, quelqu'un qui est perçu comme un autre, quelqu'un de très différent. On ne redit pas en esclavage sont semblables. Ou même dans les types d'esclavage dits internes, l'esclavage pour dette, quelqu'un qui appartient à votre société et qui après devient esclave. On crée des processus fictifs ou autres, symboliques ou autres, pour faire que cette personne-là n'appartient plus à votre monde. L'esclave, c'est l'autre, parce qu'on le dénigre, parce qu'on le considère comme moins civilisé, comme ayant une autre religion, etc. C'est l'autre ou quelqu'un transformé en un autre. À partir de ce moment-là, l'esclavage partout est synonyme de discrimination. Il y a des auteurs, spécialistes d'histoire antique, qui ont écrit notamment un bel ouvrage sur la question du racisme dans les mondes gréco-romains. Voilà. Donc je dirais que partout l'esclavage est lié à la ségrégation, partout l'esclavage est lié à des formes de racisme. Maintenant, la forme de racisme qui s'est développée dans l'esclavage des Amériques coloniales est tout à fait originale et tout à fait spécifique. Et comme elle a concerné une population d'une couleur, je dirais que les stigmates, les conséquences de ce racisme-là à long terme sont évidemment beaucoup plus durables que les autres. Donc il faut trouver un moyen pour essayer de ne rien oublier, de ne pas mésestimer un esclavage par rapport aux autres, de ne pas condamner un esclavage et puis minimiser un autre et considérer que ce n'est pas un esclavage. Il faut trouver les moyens à la fois de condamner l'esclavage sous toutes ses formes, de définir l'esclavage tel qu'il est en général, et de garder à l'esprit que cet esclavage général a eu des formes, a revêtu des formes très différentes suivant les lieux et les époques. Ce qui n'est pas facile.
Bonjour. L'anglais, comme nous le savons tous, est une créature fourbe et assez opportuniste.
Ah bon ?
Il suffit d'aller à Waterloo ou à Azincourt pour s'en souvenir.
Ouais. Ah, je n'étais pas né à l'époque d'Azincourt.
Moi non plus. Donc, en 1807, lorsqu'ils lancent leur idée de traité bilatéral, il n'y a pas aussi une idée de reprendre les événements qui ont eu lieu à Saint-Domingue et dans les Antilles françaises durant la Révolution. Et c'est pour savoir quel est votre avis sur ces événements. Est-ce que c'est juste un épiphénomène qui s'est fini, comme on le sait, comme dans un grand bas de sang, ou bien ça a joué un rôle fondamental et important pour les abolitionnistes comme un exemple de l'émancipation nécessaire et quoi qu'il en soit inéluctable des esclaves?
Ça, c'est une question très pertinente. J'irais qu'il y a deux temps, avant et après la rébellion de Saint-Domingue, la révolte ou la révolution de Saint-Domingue, selon les auteurs. Un avant et un après. Avant, les abolitionnistes français et anglais agitent le spectre d'une possible insurrection des esclaves. Louis-Sébastien Mercier parle de l'arrivée d'un Spartacus noir. Et donc, c'est un des arguments des abolitionnistes pour dire, voilà, c'est urgent, il faut faire quelque chose. Nous sommes sur un volcan, et il y a très peu de planteurs, des centaines de milliers d'esclaves, et ça va se finir très très mal. Et au départ, c'est un argument pour pousser à agir. Puis après, il y a la révolte. Terrible, massacre de tous les côtés. Et à ce moment-là, les abolitionnistes sont pris à mal. En France, en Angleterre aussi, en France, les abolitionnistes, on les accuse par leurs propos incendiaires, je reprends des termes de l'époque, par leurs propos incendiaires d'être à l'origine de la révolte et des massacres. Et donc on les accuse d'être traîtres à leur nation. En Angleterre, au début des années 1790, Drescher et d'autres l'ont montré, le mouvement abolitionniste anglais se met en sommeil. Parce qu'être abolitionniste en Angleterre à ce moment-là, c'est prendre le risque d'être traité de jacobin, de révolutionnaire français. Une injure. Et donc je dirais que, dans un premier temps, la possibilité de révolte d'esclaves a été un argument des abolitionnistes. Dans un second temps, la réalité de la révolte les a un petit peu gênés. Et je dirais qu'il y a un troisième élément. Et là, c'est un historien britannique qui a montré cela. Je dirais qu'il y a peut-être au moins deux âges dans les rapports entre révolte d'esclaves et abolition. Pendant très très longtemps, les révoltes d'esclaves, il y en a dès la plus haute antiquité. Hein. Mais un esclave qui se révolte, que fait-il ? Il se révolte pour être libre lui-même. Il ne se révolte pas pour libérer tous les autres esclaves. Y compris même deuxième moitié du XVIIIe siècle, en Jamaïque, ceux qu'on appelle les nègres marrons, ou les esclaves bleus, ceux qui sont révoltés, qui vivent à l'intérieur intérieur et dans les régions montagneuses, ne font pas la guerre pour libérer les autres esclaves. Les Britanniques même travaillent avec eux, acceptent leur présence, acceptent quelques trafics, parce que lorsque d'autres gens se libèrent, parfois ces esclaves libérés les renvoient. Hein. Donc pendant très très longtemps, les esclaves qui se révoltaient n'avaient d'autres ambitions, d'autres raisons que de se libérer eux-mêmes. Et puis il y a un moment où apparaît l'idée d'une abolition possible. Avec la naissance d'un mouvement abolitionniste en Occident. À partir de ce moment-là, les révoltes d'esclaves jouent un rôle. Et dans la thèse que j'ai mentionnée tout à l'heure, de Frédéric Beauvois, elle parle à juste titre d'acteurs invisibles. Dans les discussions ou dans les assemblées pour abolir la traite ou l'esclavage, on ne parle pas beaucoup des esclaves. On ne parle pas des révoltes. Parce qu'on sait très bien que si on parlait de ça, ce serait donner un argument aux esclavagistes. Mais on s'aperçoit que les révoltes, notamment dans les colonies britanniques, accélèrent les débats parlementaires. Et donc je dirais que dans un premier temps, pour résumer, la possibilité de révolte est un argument des abolitionnistes. Dans un second temps, ça devient un handicap. On a même des gens d'Amérique latine qui disent « Il serait préférable qu'on vive un siècle de plus à la domination des Espagnols plutôt que de subir les mêmes affres qu'à Saint-Domingue. Hein, » Donc c'est un handicap. Dans un troisième temps, quand le mouvement se développe, les révoltes esclaves jouent sur la cinétique du mouvement, accélèrent le processus. Voilà.
Bonjour.
Ah, oui.
Déjà, je voulais juste préciser pour mon ami qui est là, il faut accepter aujourd'hui, vraiment, on vient d'Afrique, mais on a une identité antillaise aujourd'hui qui, avec tous les mélanges qui se sont faits aux Antilles, moi, en tant qu'Haïtien, on a une langue, on a une identité antillaise. C'est juste une précision. Ma question, c'est est-ce que, pour parler de déjà de l'abolition de l'esclavage en terre d'islam, déjà, est-ce qu'il ne faut pas en parler? Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle. Pourquoi? Par peur de stigmatiser une religion, de blesser des gens, même nos historiens africains ont peur de parler de ça aujourd'hui. Est-ce que déjà il ne faut pas parler de ça? Après, on va parler de l'abolition de l'esclavage en terre d'islam. Il faut déjà parler de l'esclavage en terre d'islam.
Oui, alors, l'esclavage en terre d'islam, maintenant, c'est quelque chose qui est largement, enfin, qui est connu depuis très longtemps, et qui maintenant, je dirais, est entré dans, y compris dans les livres scolaires. Hein, vous savez que, en classe de quatrième, on étudie la traite par l'Atlantique. En classe de cinquième, on étudie au choix un état d'Afrique subsaharienne médiévale, et puis les commerces de cet état et en partie la traite des esclaves. Donc ça fait partie maintenant, y compris des programmes scolaires. Hein. Donc je dirais qu'il n'y a plus de tabou sur cela dans les faits. Les historiens travaillent dessus. Il y a peut-être encore un tabou parfois chez certains dans les esprits, je ne sais pas. Mais vraiment, ça fait partie de la recherche. Mais encore une fois, il n'est pas facile de réussir à la fois à avoir une attitude d'historien, une attitude de défenseur des droits de l'homme, à faire une histoire globale de l'esclavage et donc à s'intéresser aux facteurs communs à tous les types d'esclavage, et en même temps à mettre l'accent sur les spécificités de chacun, sans pour autant dire, voilà, parce que tel esclavage était comme ça, tel autre était comme ça, l'un était plus doux ou l'un était plus acceptable que l'autre. C'est pas facile, mais je pense qu'on y arrive de plus en plus. En tout cas, vos réflexions à tous les deux le montrent qu'il y a des interrogations, des débats, et qu'il n'y a pas de tabou. Hein, c'est très bien. D'autres questions? Une dernière question, parce qu'on a dépassé l'horaire, puis il y a des personnes qui travaillent, donc on ne va pas dépasser trop longtemps l'horaire.
Oui. Vous avez présenté en début de diaporama une gravure du navire Le Brooks, il me semble, un navire anglais qui venait de Liverpool. Et il me semble, d'après une lecture que j'ai faite pendant les vacances d'un historien américain qui a écrit un livre qui s'appelle « À bord du négrier », que les premiers abolitionnistes anglais, ceux des clubs, ont créé cette gravure et ont récolté aussi les avis des marins, en fait, des marins britanniques qui ont été essentiels pour montrer à quel point la traite était horrible à l'intérieur des navires négriers, et montrant également que la mortalité des marins eux-mêmes était très forte, et se servant dans les procès de cet argument-là de la forte mortalité des marins britanniques pour condamner cette traite à cette époque-là. Moi, j'aimerais savoir si on a eu ce même usage d'arguments en France, puisque la gravure par elle-même a beaucoup circulé tout autour de l'Atlantique, aux États-Unis également, en France aussi. Est-ce qu'on a eu des... Moi, je suis enseignant, je suis professeur d'histoire-géographie, et je trouve que les témoignages qui sont faits dans ces procès où s'opposent des arguments que vous avez pu présenter, notamment sur les intérêts nationaux, sont des documents historiques assez exceptionnels, des moments assez exceptionnels. Est-ce qu'on a les mêmes cas en France? Vous avez parlé de Corbière, par exemple, qui a écrit le navire Le Négrier, mais lui-même, il me semble, a pratiqué la traite négrière. Est-ce qu'on a des procès qui sont faits contre des capitaines ou contre des armateurs français dans les années 1815-1830, par exemple?
Oui, en fait, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est le rapport à ce livre que je connais bien, j'ai lu en anglais avant qu'il se traduise en français. C'est un livre intéressant. Il est malheureux que l'auteur se serve en partie du témoignage d'Olodé Aquiano, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il est né aux États-Unis et qu'il n'a jamais traversé l'Atlantique. Et le même auteur, dans un ouvrage antérieur, écrivait que, avant l'arrivée des Portugais au XVe siècle sur les côtes d'Afrique, les sociétés africaines vivaient à l'état de la communauté communiste primitive idéale. Deuxième élément de votre intervention, est-ce que ce type d'argument, on le retrouve en France? Oui, vous avez vu que... Mais là, c'est l'autre côté. C'était un capitaine négrier français du XVIIIe siècle qui, pour montrer comment les Noirs étaient entassés, pour montrer que ça pouvait être une affaire profitable, pour trouver des investisseurs, montrait la même chose que les Britanniques. Et puis je dirais qu'il y a certains documents, comme c'est « Ne suis-je pas un homme et un frère, une femme et une sœur », certains types d'arguments ont été diffusés en étant adaptés, traduits, etc., modifiés, partout dans le monde abolitionniste occidental. Donc il y a des éléments communs à cette rhétorique. Maintenant, il y a des spécificités. C'est vrai que les arguments économiques sont plus développés du côté britannique. C'est vrai que l'idée que la traite fait mourir beaucoup de marins. Or, la marine est essentielle à la puissance britannique, donc la traite peut être dangereuse à la puissance britannique. Ça, on le retrouve au moins en France. Donc, il y a à la fois des points communs à cette rhétorique et des spécificités. Et dans les registres de la Société des Amis des Noirs, on trouve notamment un passage intéressant où on dit que il faut à la fois se servir des arguments britanniques, ils sont en avance, mais il faut les adapter aux mœurs françaises. Et notamment, j'ai oublié les termes, en gros on dit, il faut que ce soit plus adouci, il faut que ça ait un caractère plus moral, il faut insister plus sur les sentiments que sur les arguments, géopolitiques ou économiques. Donc il y a à la fois des points communs et des adaptations nationales, et pas simplement nationales, temporelles. Le discours de la fin du XVIIIe siècle, c'est pas forcément celui de la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes hommes. Il y a même, on pourrait le penser, et on a beaucoup plus étudié le mouvement abolitionniste de la fin du XVIIIe siècle, jusqu'aux années 1820-30, voire 40, que l'abolitionnisme des années 1880. On peut se demander si ce ne sont pas des mouvements différents, en partie. Bien, Bah, écoutez, la dernière.
Pardon. Donc, dernière question. Je me demandais si la Révolution française, enfin, quel impact avait eu la Révolution française sur le travail des abolitionnistes. Est-ce que ça a été mis entre parenthèses, ou est-ce que c'est quelque chose qui a soutenu le mouvement par rapport aux droits de l'homme? Est-ce que ça a apporté un plus, ou est-ce que pas du tout, c'était pas une préoccupation à ce moment-là?
Ça a été les deux. Dans un sens, c'était un mouvement qui a facilité ou favorisé l'abolition, je dirais, qui l'a favorisé dans les esprits, parce que c'était la première abolition de 1794, c'est cette politique-là des premiers pas. On peut ensuite s'appuyer sur ça pour dire, voilà, hein, il faut abolir. Mais maintenant, je dirais que dans, un petit peu comme la révolte des esclaves, comme tout à l'heure, la révolution a joué un rôle en même temps handicapant. En ce sens que, et on trouve ça chez un Alexis de Tocqueville, bien plus tard. Tocqueville est un admirateur, il critique l'esclavage, aux États-Unis et ailleurs. C'est un admirateur des méthodes britanniques, et donc de l'abolitionnisme britannique, des pétitions, de l'appel au peuple, etc. Mais il nous dit en substance que ça ne peut pas être adapté au territoire français, et il faut faire attention. Parce qu'il y a le souvenir de la révolution, d'irruption des masses dans les débats politiques, de la terreur, etc. Et donc, la première abolition est associée à la révolution, associée à la terreur, etc. Et ça freine certains abolitionnistes. Et c'est en partie pour ça que l'abolitionnisme français reste plus élitiste que l'abolitionnisme britannique ou américain, qui est plus populaire. Et d'ailleurs, le spectre de la révolution, de l'irruption des masses, etc., est tel que finalement, ça pousse les régimes à ne pas faire grand-chose. Et paradoxalement, à force de ne pas faire grand-chose, le seul moyen d'en sortir, ce sont les révolutions. C'est après la révolution de 1830 qu'il y a les accords entre la France et l'Angleterre, 31-33. C'est après la révolution de 1848 qu'il y a l'abolition de l'esclavage. Mais l'abolition de l'esclavage, un décret, pas de débat à l'Assemblée. Merci à vous.